commencer. L'annuaire, soit vous n'y êtes pas, vous souhaitez y être inscrit, vous écrivez juste vos coordonnées, vos noms, prénoms, tout ça, de manière le plus lisible possible. Et si c'est OK pour vous, vous mettez une croix. S'il faut modifier, vous modifiez. Mais dans tous les cas, il me faut un signe de vie quelque part que je sache si c'est bon ou s'il faut que je fasse quelque chose. Voilà. Alors, on va essayer de... Je vais essayer de pas trop déborder. Je vais forcément déborder un petit peu, mais... Alors, aujourd'hui, je fais la suite de ce que j'ai fait les deux fois d'avant, c'est-à-dire discuter de la Bible. Alors, on a vu dans la première partie la création de la Bible, enfin, l'écriture, et le principe du recensement des livres, la création du canon. On a vu dans la deuxième partie la transmission de la Bible, avec différents groupes de gens qui nous l'ont réécrit, qui l'ont recopié, tout ça, dont les Massorètes. Et je voulais terminer aujourd'hui avec les traductions de la Bible. Alors, l'inconvénient, c'est que j'ai trop pour un message et que j'en ai pas assez pour deux. Donc, c'est un peu compliqué à gérer au niveau du contenu, mais on va s'en sortir. Alors, je fais juste un point rapide. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant, je pense, pour nous, mais c'est une question presque de culture chrétienne, sur les anciennes traductions. Quand j'entends ancien, c'est des traductions qui datent d'il y a plusieurs siècles. Et il y en a juste, j'en ai pris trois qui sont relativement connues, voire très connues. Et je voulais juste aller rapidement dessus. Comme ça, chacun, quand on parle de la Vulgate, la Septante ou le texte reçu, vous saurez de quoi on parle. Après, si vous êtes curieux, vous allez chercher. Il y a plein de trucs super intéressants là-dessus. Alors, la Septante, elle date de 300 avant Jésus-Christ. Les auteurs, ce seraient 72 hommes. Alors, on a une légende sur la Septante. On ne sait pas ce qui s'est vraiment fait, comment elle a été écrite. Mais c'est l'idée que Ptolémée II, qui était pharaon d'Égypte, a voulu commander une traduction de la Bible. Il a voulu une traduction en grec. C'est écrit dessus, normalement, à un endroit. Hein. Voilà. Traduction... Je suis censé avoir un pointeur, oui. Traduction de l'Ancien Testament de l'hébreu vers le grec. Donc, il a demandé à des Hébreux qui lui ont fait un petit chantage, qui ont dit « Ok, tu nous libères quelques prisonniers et nous, on t'envoie quelques traducteurs. » Donc, il aurait reçu 72 traducteurs qui venaient d'Israël, qui ont travaillé chacun de leur côté pendant 72 jours et qui, au bout des 72 jours, ont mis leur travail en commun et ont vu que c'était strictement identique. Et là est née la Septante. Alors, on voit très bien que c'est une légende, hein, parce que même de nos jours, traduire une Bible, c'est 10 ans. Donc, en 72 jours, c'est un peu compliqué avec les moyens de l'époque. En tout cas, ça a été une des premières grosses traductions connues. Et c'est une traduction vers le grec qui était importante parce qu'à l'époque, le monde parlait grec. En tout cas, le monde connu, notre monde à nous, presque, on pourrait dire. Donc, le pharaon d'Égypte, ça, je l'ai dit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est citée par les auteurs du Nouveau Testament. Alors, nous, forcément, en français, on ne voit pas la différence. Mais ceux qui connaissent les textes en grec, les citations qui sont faites de l'Ancien Testament par les apôtres, par Jésus même, c'est tiré de la Septante, en fait. Ils parlent des versets de la Septante. Ça veut dire qu'ils utilisent les tournures qui sont dans la Septante, et quand on voit les tournures utilisées par les apôtres, c'est celle de la Septante. C'est comme ça qu'on reconnaît. Alors, je vous avais parlé aussi des codex qu'on a retrouvés. Donc, les codex, ils sont des bibles quasi complètes qu'on a retrouvées. Et donc, le codex Sinaiticus et Vaticanicus, qui sont aussi très, très connus parce que c'est des anciennes copies et qu'elles sont très complètes, elles sont issues de la Septante. Donc, c'est une traduction qui a donné lieu à... qui a été conservée pendant pas mal d'années, qui a eu une grande valeur pour les chrétiens. Alors, pour les chrétiens. Pour les Hébreux, au moins. Pour les chrétiens, après, elle a été remplacée par une autre, qui s'appelle la Vulgate. Alors, elle est un peu moins vieille, elle date de 400 après Jésus-Christ, et elle a été au moins partiellement rédigée par Jérôme Stridon, qu'on appelle Saint Jérôme, souvent. Alors, ce qu'il a fait, lui, c'est qu'il a traduit en latin, cette fois-ci. Donc là, on est dans la période romain et après Rome, et donc la langue parlée dans la plupart des pays, c'est le latin, donc on a besoin d'une Bible qui est en latin. Il a fait le choix de l'écrire en latin courant, et avec un langage soutenu globalement, alors qu'il y a... Non, avec un langage populaire, voilà, à l'inverse d'un langage soutenu. Et c'est pour ça que ça s'appelle la Vulgate. Vulgate, c'est vulgaire, c'est le peuple. Et donc, il a fait une traduction, à partir des textes originaux en hébreu, Ancien Testament, et grec pour le Nouveau Testament. Vous savez que le Nouveau Testament, on ne l'a pas en hébreu, on l'a en grec, de base. Cette version-là, elle est devenue la version officielle de l'Église catholique après un certain temps. Et pour l'Église catholique, elle est d'ailleurs restée la version officielle. Jean-Paul II l'a fait réviser dans les années 80, je crois, en 79. Donc elle a une grande valeur pour l'Église catholique. Elle l'a été au démarrage pour les chrétiens, puisqu'ils n'avaient que ça, quasiment. C'était soit la Septante, soit la Vulgate, pour les langues majeures, on va dire, le grec et le latin. Et elle a été à la source des premières traductions françaises de la Bible. Alors, il faut savoir que Saint Jérôme, il a fini dans la misère, au bout de sa vie. Il a été globalement un érudit. Il a été en Israël pour apprendre l'hébreu, pour savoir comment traduire la Bible. Et il a été rejeté par l'Église catholique pour le travail qu'il avait fait. Donc, c'est assez rigolo de voir qu'il a été rejeté, que quelques siècles après, sa version est devenue la version officielle de l'Église catholique. Mais c'est intéressant pour nous, quelque part. Alors, ça ne peut pas être un réflexe, mais si ça a été rejeté par l'Église catholique de l'époque, c'est bon signe pour nous. Voilà. Après, c'est pas un argument en soi, mais on pourrait dire quelque chose qui colle à l'Église catholique de l'époque. C'est pas bon signe. L'Église catholique de l'époque, c'était les indulgences, voilà, c'était avant la réforme, donc c'était compliqué. Donc voilà. Et finalement, Saint Jérôme a été canonisé. C'est pour ça qu'on l'appelle Saint Jérôme. Donc vous voyez que tout n'est pas perdu. Et ça a été le premier livre imprimé par Gutenberg en 1454. C'était la Vulgate. Alors rapidement, il a fait figurer les apocryphes dans sa traduction, alors qu'il ne le voulait pas. Il a mis un petit passage au démarrage de sa traduction disant « Je les ai fait figurer, mais elles n'ont pas l'autorité du restant de la Bible ». Mais il a eu une pression du clergé de l'époque pour les mettre dedans, et donc il les a laissés. Voilà. Mais s'il avait choisi, il ne les aurait pas mis dedans. Ça aussi, ça se rapproche presque des Bibles protestantes sur le canon. Ah ben, je l'ai oublié, ça. Donc voilà, il a mis en garde contre les livres apocryphes. Il dit « Tout ouvrage qui ne figure pas parmi les 24 livres de la Bible hébraïque doit être considéré comme apocryphe, c'est-à-dire non canonique ». L'article 6 de la religion anglicane indique « Selon Jérôme, l'Église peut s'inspirer de ses livres en tant qu'exemple de vie ou instruction pratique, mais elle ne doit pas les employer pour établir une doctrine quelconque. » Donc c'est un énième avertissement sur les livres apocryphes. Et sa mention a été retirée du texte qui a été diffusé par l'Église catholique. Voilà. Donc ça, c'est ce que je disais rapidement tout à l'heure. Jérôme s'est vu refuser tout rôle ecclésiastique. Il a passé 19 ans à Bethléem dans une grotte pour traduire la Bible et est mort dans la misère. Il n'a été canonisé que plusieurs siècles après et sa traduction n'a pas été considérée comme la version officielle de l'Église catholique immédiatement. Ça a été plusieurs siècles après. J'ai vu au 8e siècle, mais je n'ai pas de confirmation de la date. Voilà. Et la troisième traduction ancienne, on va dire, qui est intéressante à regarder pour nous, c'est le texte reçu. Alors celui-là, il date du 16e siècle, donc on est beaucoup plus récent, et il a été fait par Erasme, qui habitait à Rotterdam, qui était philosophe, théologien et donc traducteur de la Bible. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a compilé les textes grecs d'un certain type, donc le type byzantin. Donc si vous vous souvenez, la fois dernière, on a dit qu'il y a globalement deux types de manuscrits, il y a les byzantins et les alexandrins, et voilà, ça fait deux familles de textes qui sont un peu différentes les unes des autres, qui n'ont pas tout à fait la même philosophie. Donc il a pris les manuscrits de type byzantin, il les a compilés, il a essayé de voir de faire un travail sur les différentes versions, de remonter à ce qui pouvait être le texte original, le plus près en tout cas. Alors pourquoi on l'appelle le texte reçu? Parce qu'il y a un petit texte qui apparaît au début de sa traduction, de quelqu'un qui envoie sa traduction à un autre, je ne sais plus, qui dit, alors en latin, je vais le lire en français, « Vous tenez le texte maintenant reçu par tous où il n'y a rien de corrompu ». Et donc on a reçu le texte reçu par tous, et on a voilà, la version d'Erasme a été appelée le texte reçu. Donc c'est pas une gloriole de sa part de dire moi c'est mon texte à moi, c'est le texte que j'ai reçu de Dieu, c'est les gens qui l'ont appelé comme ça, et c'est devenu après un standard quasiment pour l'Église protestante. Donc ça a été à la base de plusieurs traductions, dont celle de Luther en allemand, la King James Version aussi, et la version d'Osterwald qui a donné lieu après à d'autres versions, on l'avait vu la fois dernière. Donc ça a été à la source de pas mal des traductions qu'on a maintenant finalement, parce que via Osterwald on a récupéré des tas de traductions. Voilà. Et donc il y a des petites batailles des fois entre le texte reçu, le texte purement byzantin, le texte purement alexandrin. Les gens se crêpent le chignon pour savoir quelle est la version de départ de la Bible. Il y a plein de trucs sympas à lire là-dessus, mais la conclusion n'est pas si facile. Bon, on ne va pas revenir sur ça, j'en ai parlé la fois dernière. Mais il y a, si ça vous intéresse, allez feuilleter, allez voir, il y a des arguments dans les deux camps et c'est intéressant. Après, ce que je vous avais dit, on avait terminé sur ça la fois dernière, hein, il faut garder l'idée que le texte biblique, il est resté quasiment inchangé du début à la fin. On ne peut pas dire mot à mot, parce que voilà, on n'a pas le texte du tout début, mais dans les doctrines, il n'y a rien qui a changé. S'il y a des points de discordance sur les traductions, sur les textes originaux, c'est des bricoles, en fait, et ça ne change rien, en fait, que Jésus est mort pour nous, qu'il est mort pour nos péchés, ça ne change rien au plan du salut, en fait. Alors, je fais un point rapide sur des traductions, alors, peut-être un peu plus modernes. Bon, sur les premières, on n'est pas beaucoup plus moderne que le texte reçu, ouais. Donc la Darby, elle date de 1859, alors la première version, hein. La Martin, ensuite en 55, et Osterwald en 1740. Alors c'est dans l'autre sens. Voilà. C'était d'abord Osterwald en 44, Martin en 55 et Darby en 59. Donc qui ont fait des traductions relativement littérales, c'est-à-dire mot à mot, ou très proche du mot à mot. Et il y a des Bibles qui suivent, celle d'Olivetan en 1535, elle a été reprise dans la Bible de Genève et améliorée. La Bible de Genève a été aussi reprise après. Les traductions, ça marche comme ça, en fait. C'est qu'il y a une première traduction qui a été faite souvent il y a longtemps, et au fur et à mesure, les gens la révisent, la revoient, et essayent de, bah, déjà d'actualiser par rapport au langage qui évolue, et puis de corriger des trucs qu'ils ont identifiés comme étant peut-être pas la meilleure traduction possible. Donc il y a des enchaînements comme ça entre Olivetan, la Bible de Genève, Osterwald et Martin, qui sont finalement la même source derrière. Alors la Bible Second, ça c'est celle qu'on a assez couramment dans nos églises, hein, qui date initialement de 1880, qui a été révisée en 1910, en 78, en 79, en 2002 avec la nouvelle Bible Second, et en 2007 avec la Second 21. Alors, nouvelle Bible Second et Second 21, c'est un langage qui est plus courant par rapport aux autres. Si vous prenez encore les 1910 ou 78, 79, on sent que voilà, c'est un langage qui est relativement soutenu. Et après les années 2000, ils ont fait deux traductions qui sont plutôt en français courant et qu'on lit beaucoup plus facilement. Alors on parlera de ces traductions après. Ouais, on a fait le tour de la Bible Seconde, je pense. Hein. La Bible de Jérusalem. Alors, à Jérusalem, il y avait une école biblique et archéologique française. Et donc, ils ont fait une traduction de la Bible. En étant à Jérusalem, c'était plutôt pas mal d'avoir accès à certains documents, d'avoir accès aussi à des gens qui connaissent le monde hébreu mieux que nous. Et donc, elle a été faite en 1955 et révisée en 73 et 98. Il y a une version Bible d'études, d'ailleurs, qui est utilisée le samedi matin, si je ne me trompe pas. C'est celle-là? Ou c'est le Semeur? Semeur? D'accord. Autant pour moi. En tout cas, il y a une version d'études. Et le but de la Jérusalem, c'est de serrer au texte original le plus près possible. Donc, c'est encore une fois une Bible avec un langage relativement soutenu et puis relativement mot à mot, ce qui fait que les phrases, des fois, elles sont compliquées à comprendre pour nous. Après, je vais peut-être passer les autres rapidement. La TOB, qui est une version œcuménique, donc protestants et catholiques qui ont bossé ensemble, qui contient les livres apocryphes, donc il y a forcément eu des compromis, hein, quand les deux travaillent ensemble. Mais ça a des apports de travailler ensemble dans le sens où on essaye d'éviter les biais théologiques. Voilà, les catholiques ont une théologie qui est quand même différente des protestants pour certains points. Et quand on traduit, on est forcément influencé par ce qu'on croit et par notre doctrine. Et donc le fait de mettre les deux ensemble, leur idée c'était de réussir à avoir quelque chose de relativement neutre au niveau doctrine et théologie, qui soit le moins influencé possible, on va dire. Donc elle a été révisée pareil en 88 et 2010. La Bible du Semeur, ouais, c'était celle-là. Donc la Bible du Semeur, elle date de 92, c'est beaucoup plus récent, elle est plus agréable à lire, on sent un français qui s'actualise un petit peu en fait, hein. Et elle a été révisée en 2000 et 2015. Alors après, il y en a d'autres, hein, la Bible annotée, la Bible en français courant. Si vous regardez même Wikipédia, hein, pas toujours la meilleure référence, mais ils vous listent les traductions de la Bible et vous avez des pages et des pages de traductions de la Bible, de révisions. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est pour ça que je l'ai souligné, c'est que dans chaque traduction, ça a été révisé plusieurs fois derrière. Et du coup, ça veut dire qu'il y a un sérieux, il y a un travail qui est fait et qui est perpétué, on peut presque dire de génération en génération. Derrière, il y a toujours alors une société biblique, une alliance biblique ou quelque chose qui fait qu'il y a un groupe sérieux derrière. Et donc la plupart des traductions, c'est pas quelqu'un dans son coin qui a fait une traduction qui dit tiens, moi je vais traduire la Bible et qui sort n'importe quoi. Donc il y a un groupe de personnes. Dedans, il y a des linguistes, il y a des gens qui connaissent le monde hébreu, il y a des gens qui connaissent la langue française aussi. Et du coup, je pense qu'on peut avoir relativement confiance dans nos traductions modernes. Dans le sens où elles sont toutes issues de révisions successives d'un texte qui était déjà à la base plutôt bien et qu'on affine au fur et à mesure. Donc il ne faut pas avoir le réflexe de dire « Ah, cette traduction-là, je ne l'aime pas. » À part la traduction des témoins de Jéhovah, où celle-là, voilà, je n'ai pas de pitié. Mais sinon, les traductions qu'on lit, nous, couramment, on n'a pas à se dire « Bon, celle-là, elle n'est pas terrible, est-ce qu'il faut que je la garde ?» Elles sont toutes bien, c'est juste qu'elles n'ont pas toutes le même objectif, en fait. Elles n'ont pas toutes été traduites de la même manière. Et donc, on va discuter de ça. Mais c'est important pour nous de savoir que la traduction qu'on a de nos jours, elle est bonne, en fait. Parce qu'on a vu la création du canon, c'était quelque chose d'important. On a vu que la transmission de la Bible, ça s'est fait de manière très, très précise aussi et qu'on peut avoir confiance. Si derrière la traduction est pourrie, ben on perd tout l'intérêt d'avoir gardé une Bible en bon état. Alors, il y a des versions catholiques qu'on connaît des fois, même si on ne les lit pas beaucoup. Abbé Crampon, Maretsu, Hostie et Chouraki. Voilà, c'est des noms des fois qui nous disent quelque chose. On les connaît, voilà, je les mentionne simplement. Donc, en dessous, c'est ce que je disais, toujours des révisions avec un texte qui a été fiabilisé et des maisons d'édition qui font le travail. C'est pas quelqu'un dans son coin. Ça, c'est important. Alors, on va arriver au point qui était pour moi le plus intéressant. Alors, j'avais un passage sur la traduction du Nouveau Monde, mais on va le zapper vu le temps qui reste. Retenez simplement que la traduction des témoins de Jéhovah, pour plein de points, elle est adaptée à ce qu'eux pensent. Et ils modifient, alors on peut dire presque consciemment, le texte pour dire que ça colle à leur doctrine. Donc il y a des choses où toutes les traductions sont à peu près d'accord entre elles. En tout cas, ça tourne autour de la même idée. Et les témoins de Jéhovah ont un truc qui sort complètement de tout ce que le reste pense. Donc si vous leur demandez, ils vont dire que leur traduction, c'est la meilleure du monde. C'est faux. Voilà. Il n'y a pas à dire... faut pas la lire, en fait, celle-là. Il y a vraiment, s'il y a une traduction à ne pas lire, c'est celle-là, parce qu'elle est modifiée, elle est tournée pour faire passer les messages des témoins de Jéhovah, et leur message ne correspond pas à ce qu'il y a dans la Bible. Alors, traduire un texte, c'est compliqué, parce qu'on ne comprend pas la langue d'origine, et que la traduction peut y avoir des erreurs, et elle ne peut jamais, même sans qu'il y ait d'erreur en soi, représenter exactement l'idée qui était au départ. Pourquoi ? Parce que c'est dans la langue du départ, ça utilise les mots, les concepts de la langue de départ, et donc quand on la traduit, on perd certaines idées. On va avancer dessus, après vous comprendrez pourquoi je dis ça. Les Arabes et les Juifs pensent qu'une traduction est forcément moins bonne que l'original. C'est leur manière de faire. Pour autant, les chrétiens ont très vite traduit la Bible dans le langage des peuples qui étaient évangélisés. Je mets ici, en latin, en syriaque dès le 2e siècle, en copte dès le 3e siècle, en gothique au 4e siècle, en arménien, en géorgien au 5e et en éthiopien au 6e. Vous voyez que les chrétiens, dès le démarrage, ils ont adapté la parole, ils l'ont traduite dans les langues qui étaient lisibles par les gens. Sinon, on serait condamnés tous à apprendre l'hébreu et le grec. Ce ne serait pas très pratique. Traduire, c'est trahir. C'est une phrase qu'on trouve souvent dans les gens qui parlent de traduction, parce que voilà, c'est impossible de faire une traduction parfaite. On va y revenir, vous verrez pourquoi. Donc chaque langue a son fonctionnement, ses spécificités, ses expressions qui ne sont pas traduisibles. Et donc quand vous faites une traduction, vous faites des choix et vous débrouillez. Alors soit, ce qu'on va voir après, soit pour coller le plus possible au texte de départ, soit pour faire un texte d'arrivée qui est le plus compréhensible possible. Il y a les deux méthodes, et dans les Bibles qu'on lit, les gens ont fait le choix entre les deux. Alors, les gens essayent des fois de trouver le milieu, mais ce n'est pas évident. Un exercice, on va faire un exercice d'anglais. Janet, il ne faut pas qu'elle réponde. You are smart as a bag of hammers. Si on le traduisait texto, ça ferait « Vous êtes intelligent comme un sac de marteau ». Bon, ça n'est pas terrible. Ouais. Si on veut le traduire mieux en français, on va dire « tu es bête comme un balai ». Ça, c'est notre expression à nous. Ouais, je prends des exemples super. Hein. Le truc, c'est que celle-là, elle est bonne parce qu'elle le traduit mot à mot, donc elle garde l'idée de départ, alors que le « tu es bête comme un balai », elle garde l'idée d'arrivée, en fait. C'est l'idée de « tu es bête », en gros. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Hein. C'est juste un exemple de traduction. « Once bitten, twice shy ». Donc, littéralement, on traduirait « une fois mordu, la deuxième fois craintif ». Vous voyez qu'on a une expression en français qui donne beaucoup mieux que ça, qui dit « chat échaudé craint l'eau froide ». Bon, c'est le même raisonnement. Une fois mordu, la deuxième fois craintif, c'est du mot à mot. Bon, on comprend l'idée quelque part. Par contre, le chat échaudé craint l'eau froide, on a bien compris ce que ça voulait dire et on capte beaucoup mieux. Donc dans les traductions, il y a la littérale et il y a la mieux. Alors mieux dans le sens où on la comprend mieux. Alors, ça, on l'a dit tout à l'heure, les traductions ont été réalisées par des gens compétents, donc des comités, avec en général aussi, c'est important, des croyants, et donc qui sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire. C'est pas un païen qui traduit la Bible, ça on pourrait s'inquiéter de ce qui est dedans, mais c'est des croyants, et donc ils savent que ce qu'ils sont en train d'écrire, ça va être lu par des gens, les gens vont se baser dessus pour leur vie, donc ils sont conscients de leur responsabilité, et du coup ils font attention à ce qu'ils font. C'est important. Alors la traduction est forcément influencée par les convictions des traducteurs, du ou des traducteurs, ouais, c'est ça. Donc maintenant, dans des traductions récentes, les gens en sont conscients et essayent d'essayer de pas trop biaiser leur traduction, mais ça reste possible en fonction de ce qu'on croit. Donc un exemple, dans le cas du verbe sauver, c'est apparemment le mot est difficile à traduire et on peut le traduire par ceux qui sont sauvés, ceux qui sont en train d'être sauvés ou ceux qui seront sauvés. Donc dans une certaine forme de conjugaison, on peut traduire par ces trois-là. Donc en français, c'est un peu compliqué, et donc il y a des choix à faire. Les protestants, en général, ils ont traduit par ceux qui sont sauvés. Les catholiques, ils traduisent en général par ceux qui seront sauvés, ou ceux qui se sauvent même dans la Jérusalem. Vous voyez que l'idée n'est pas la même. Là, on est déjà sauvé, là, c'est on va se sauver, ou on va être sauvé. Ça, c'est dû à quoi? C'est dû à la manière de penser des protestants ou des catholiques qui voient le salut légèrement différemment. Alors dans Matthieu 1, 25, on traduit en général par « Joseph ne connut pas Marie jusqu'à ce qu'elle eût enfanté ». Et l'ancienne version liturgique catholique, elle traduisait « Joseph n'eut pas de rapport avec elle, elle enfanta un fils ». Vous voyez qu'il y a un point-virgule qui s'est mis au milieu. Et ça, c'est parce que chez les catholiques, pendant un moment, Marie était restée vierge toute sa vie. Donc il fallait bien que la traduction, elle suive aussi. Alors je ne dis pas que les gens l'ont fait exprès de traduire, de mettre des traductions différentes, mais liées à ce qu'ils pensaient, à ce qu'ils croyaient, ils l'ont fait, je pense, spontanément, différemment. Nous, si on traduisait, ce serait orienté par ce qu'on croit aussi, quelque part. Donc, voilà pourquoi aussi, c'est peut-être pas une très bonne idée de lire les traductions catholiques pour nous. Donc, pourquoi? Voilà, c'est ce que je disais pour coller à la virginité perpétuelle de Marie. Et dans la version de 2013, ça a été corrigé, et il ne s'unit point à elle jusqu'à ce qu'elle enfante un fils. Donc ils ont corrigé, là ça se rapproche de ce que nous on lit dans nos traductions à nous. Alors une des raisons pour lesquelles la traduction pourrait être différente, c'est que le texte de base peut être différent. On peut avoir on a parlé des codex, des textes byzantins, du texte d'Érasme. Du coup, en fonction des compilations, des textes qu'on a récupérés, c'est pas exactement la même chose. Et donc ça influence la traduction derrière. Donc dans Jacques 3, verset 12, on lit « Aucune source ne peut produire de l'eau salée ou de l'eau douce ». Et on peut le lire aussi, de l'eau salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce. Vous voyez que l'idée est presque la même, mais là on parle d'une source, et là on parle de l'eau salée qui se transformerait en eau douce. Donc c'est pas exactement la même chose. Et quand je vous dis, c'est sur des fois sur des détails, plus que des points théologiques. Dans Matthieu 5, 22, tout qui se met, j'ai dû mal recopier mon truc moi, c'est tout homme, ouais, tout homme ou quiconque se met en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Le sans raison, on le retrouve pas dans tous les textes les textes hébreux ou grecs, en fait. Là, c'est du Nouveau Testament, donc grec. Donc, en fonction des textes, il y en a des gens, ils vont mettre sans raison. Ça ajoute un sens un peu différent à la phrase. Ça la transforme pas complètement. Mais c'est pour ce genre de raison qu'il faut faire attention à une prédic qui serait basée sur un mot dans la Bible et qui le tournerait vraiment, qui l'exploiterait totalement en disant « Allez, c'est écrit comme ça, donc faut faire ça ». Il faut se méfier. Il faut se méfier à cause de ça. Alors, des fois, le texte original est obscur. C'est-à-dire que nous, dans notre compréhension, on ne le comprend pas, on ne sait pas, ou alors il y a plusieurs manières de le traduire, et donc les traducteurs sont obligés de faire un choix à un moment donné. Donc la formulation originale, des fois, est très condensée, il est difficile de déterminer quelle est la fonction des mots ou quel lien les propositions ont entre elles. Les mots employés peuvent avoir aussi des sens différents. Si le mot, quand vous le traduisez, il y a trois sens différents, à un moment donné, il faut faire un choix. Alors, des fois, vous avez le contexte qui vous permet de vous guider, et des fois, vous ne l'avez pas. Donc, vous êtes obligé de trancher. Et des fois, on ne connaît pas le sens de certains mots. Tout court en hébreu, on ne sait pas ce que ça veut dire, et voilà. Donc, dans Néhémie 12, verset 9, on lit « Bakbukia et Uni, leurs frères, qui étaient devant eux pour leur garde. » Qui étaient unis pour leur garde, et la fin de la phrase, j'aurais dû la noter aussi, c'était entonner un chant ou quelque chose comme ça. On ne sait pas si les frères ici, c'est des membres de la parenté, des frères de sang, ou si c'est des compatriotes, des frères hébreux, ou si c'est des frères parce qu'ils sont de la même famille de Lévite ou parce qu'ils servent le Seigneur ensemble. On ne sait pas en fait qu'est-ce qui veut dire ce mot frère exactement en hébreu. Donc on est obligé de faire des choix sur traduire quand on traduit le texte. quand on dit ils sont devant eux pour leur garde, ça peut signifier qu'ils assistent les autres, ils vont avant eux et donc ils préparent le terrain. Ça peut dire que physiquement ils sont devant eux et quand ils chantent l'un en face de l'autre. Il y a des versets comme ça, pas plein d'eux, mais il y a des versets où on ne sait pas exactement comment le traduire, on ne sait pas quelle était l'idée du texte. Alors, honnêtement, ce genre de phrase-là, ça ne change pas grand-chose à notre théologie. Hein. Faut pas... C'est pas grave, mais il faut le savoir que ça se passe dans le texte des fois. Dans le psaume 105, verset 19, on a attaché ses pieds avec des chaînes, on a enserré son cou dans du fer jusqu'au moment où est arrivé ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'a purifié au creuset. Le roi l'a fait libérer. La purifier au creuset, c'est pas évident à traduire. Alors ça, c'est une traduction qui est plutôt littérale, la purifier au creuset. Second 21 le traduit la justifier. Et on perd l'idée du creuset, on perd l'image, mais c'est un peu cette idée-là. Il y en a dans Semeur, c'est traduit montra qu'il avait raison. Ça revient à justifier, c'est juste pas les mêmes mots. Et vous voyez qu'on peut après comprendre un peu différemment les choses. La parole de vie, c'est à montrer qu'il était innocent. Et la nouvelle Bible seconde lui fit surmonter l'épreuve. Vous voyez qu'on tourne autour de la même idée, mais il y a des mots différents parce qu'on ne sait pas quelle était l'idée exacte du texte. Alors on prend français courant, prouva quel genre d'homme il était. On le comprend encore mieux, c'est plus facile pour nous. Par contre, on avance encore dans le choix qui est fait du traducteur de l'idée qui était dans le texte. Et en second, c'est l'éprouva, tout simplement. C'est l'idée du creuset qu'on retrouve à pas mal d'endroits. Alors le mot « ezed », il est traditionnellement interprété comme signifiant « bonté, grâce, faveur, bienveillance, voire amour ou miséricorde ». Et déjà, pour un mot, ça fait pas mal de traductions possibles. Si vous avez la Bible online ou des choses comme ça, des fois, vous voyez les numéros strong. Quand vous cliquez dessus, vous avez le mot hébreu et puis les traductions possibles. Alors, souvent, vous avez un paquet de traductions. Et donc, celui qui a fait le travail, il est obligé de choisir en fait ce qui lui semblait le plus adapté. Alors, il y a une étude qui lui a même attribué le sens de fidélité, de loyauté ou d'amour loyal. Et que là, on a un panel de mots disponibles et donc il y a forcément un choix à faire. Dans Jean 1, verset 5, la lumière brille et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Alors, dans certains cas, c'est traduit « ne l'ont pas maîtrisée, ne l'ont pas surmontée, ne l'ont pas comprise ou ne se sont pas emparés d'elle ». Et tout ça, c'est bon. D'un point de vue traduction pure, c'est bon. Simplement, on ne sait pas ce que l'auteur du départ il a dit exactement parce que c'est dans sa pensée. Nous, on a juste une phrase et il faut se débrouiller avec. Alors, un des points peut-être le plus important pour nous maintenant, c'est le niveau de langue qui est attendu, le public qui est visé. En fait, quand les gens traduisent la Bible, ils visent une cible quelque part. Et si, ok, moi je fais une Bible qui est pour des gens plutôt cultivés, ou alors, alors je caricature, hein, mais pour des ados, pour des jeunes qui ne vont pas avoir la compréhension des mots qu'on utilisait en 1910. Hein. La seconde 1910, quand on la lit, on sent quand même qu'on a pris, de l'âge. Hein. Enfin, voilà. Ben, la Bible a pris de l'âge, nous moins déjà. Mais voilà, il y a des gens qui sont ciblés, et quand on fait des traductions modernes encore plus, les gens se disent, ok, on vise des gens qui ne sont pas chrétiens au départ, et on a envie qu'ils lisent la Bible. Dans ce cas-là, on va le traduire un peu différemment que si on s'adresse à des chrétiens depuis 50 ans. On va traduire différemment aussi si on s'adresse à des enfants. Donc il y a des Bibles pour enfants qui modifient le texte, mais qui traduisent différemment pour que les enfants comprennent. Donc ça, c'est un facteur qui est important, c'est qui on vise avec le texte. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité. C'est titre 2, verset 14 dans la version Louis II. La nouvelle Bible seconde est destinée à un public plutôt cultivé, d'après eux, et traduit afin de nous rédimer. Moi, si je lis rédimer, voilà. On n'est pas cultivé, en fait, c'est ça. La seconde 21, elle vise un public moyen. Alors, je ne sais pas ce que c'est un public moyen, mais c'est ce qu'on lit quand on parle des traductions. Et à se faire comprendre des adolescents. Elle utilise le verbe racheter. Là, on comprend mieux. On est plus adolescent, en fait, hein, vous voyez ? Ou alors moyen. La Bible en français fondamentale, elle vise un public non francophone et peut même servir à des enfants. Elle traduit « libéré ». C'est encore plus simple que « racheter ». Alors, il y a des difficultés. Donc, vous voyez, depuis le départ, je vous liste toutes les difficultés quand on traduit. C'est juste pour vous montrer que les gens ne font pas à la va-vite. C'est qu'il y a un tas de choses qui rentrent en compte, voilà, quand on traduit la Bible, et que les gens ont forcément fait des choix, d'où les différences que vous voyez. Et il ne faut pas se dire, telle traduction, elle est pourrie. Non, c'est qu'il a fait des choix différents, et voilà. Donc, il y a des différences qui sont liées à des particularismes locaux. Alors, je les ai découverts aussi, enfin, le deuxième surtout. En France, on dit 70. En Belgique et en Suisse, on dit 70. En fonction de qui on attend, si vous voyez une traduction française qui va être diffusée en Suisse, ils pourront traduire 70, du coup. C'est bête comme truc, mais il y a plein d'autres mots comme ça. en fait, et ça explique pourquoi les mots sont différents. En France, on a tendance à dire 10 centilitres, et en Suisse, c'est 1 décilitre. C'est la même quantité, hein, c'est pas grave. Mais c'est juste qu'on n'exprime pas les quantités de la même manière. Donc quand vous allez traduire, bah, il faut en tenir compte aussi. Ça, vous savez aussi, les mesures. Est-ce qu'on emploie les mesures de la Bible ou est-ce qu'on transforme en kilos, en mètres et en secondes avec le système international? C'est un choix à faire. Est-ce qu'il faut garder les coudées, voilà, ou transposer en centimètres et en mètres, en prenant le risque d'arrondir, du coup, parce que c'est plus la même valeur? Est-ce que vous permettez d'arrondir les valeurs qui sont dans la Bible quand vous traduisez? Ça peut paraître bête, dis-moi, 13, quelque chose, machin, je l'arrondis à 13, mais est-ce que Dieu n'a pas voulu que ça soit cette dimension-là exacte? C'est pas facile à dire. Est-ce qu'on va se risquer à parler de pièces au lieu de cycles à l'époque d'Abraham, en sachant que les pièces n'existaient pas encore et qu'ils commerçaient avec des cycles? Le système monétaire, il est apparu au 7e siècle avant Jésus-Christ, donc bien après Abraham. C'est un choix à faire aussi. Est-ce qu'on va dire dans le texte que la mer en question, c'est la mer Méditerranée, pour que la personne comprenne? Ou est-ce qu'on va l'utiliser l'ancien mot de cette mer-là? Mer Méditerranée, c'est récent, en fait, c'est les Romains. Hein. Donc voilà, il y a un tas de choix à faire comme ça qui nous passe au-dessus. Hein. Quand on lit la Bible, on ne se rend pas compte, mais c'est important pour le traducteur. Ah, celui-là. Ça, c'était pour Stéphane, ça. Ballon. On ne traduit pas avec les mêmes mots en fonction de si on sait que la Bible va être lue par quelqu'un dans son coin ou que la Bible va être lue tout haut dans l'église. Pourquoi? Parce qu'il y a des homonymies, des trucs qui sonnent bizarrement quand on le dit uniquement. Donc Dieu est le mal. Ah, est-ce que vous n'allez pas traduire plutôt Dieu déteste le mal? Parce qu'à l'oral, ça passe mieux. Dieu est le mal, ben, vous pouvez entendre Dieu est, le verbe être, le mal. Donc ben, c'est à prendre en compte aussi, c'est bête. Et Jésus est loin de Dieu. Pareil, ça c'est les trucs que Stéphane il capte très vite quand on parle à l'église. Voilà, c'est tout bête, on n'y pense pas, mais il faut le prendre en compte quand même. Voilà. Et donc le principe principal, on l'a déjà abordé plusieurs fois, c'est est-ce que on traduit mot à mot? Alors c'est ce que les gens du métier appellent ça l'équivalence formelle ou littérale. Donc, une traduction littérale, c'est vraiment le plus possible mot à mot, où on privilégie la langue de départ, donc l'hébreu ou le grec. On va rester le plus proche possible du texte, on va garder si possible le même nombre de mots, si possible les mêmes structures de phrases. Ça fait des contraintes hein, pour traduire comme ça. Et il y a l'équivalence dynamique ou fonctionnelle, qui là privilégie plutôt le sens dans le langage dans lequel on traduit, donc pour nous en français, qui va privilégier une phrase qui donne bien en français et qu'on comprend bien, et on va chercher à rendre le sens du texte. Alors, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise traduction, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est qu'il y en a une qui va privilégier quelque chose, l'autre qui va privilégier l'autre, et puis ben, on essaye de trouver le juste milieu quand on traduit. Ah, c'est encore un exemple. Il fait beau en anglais. Si vous le traduisez de manière formelle, it is making beautiful. L'anglais ne comprendra rien. Ça ne veut rien dire en anglais, en fait. Si on le traduit de manière dynamique, on va dire the weather is nice. Mais ce n'est pas les mêmes mots. Et c'est pas la même manière de le dire. Vous voyez, il fait beau, c'est une tournure impersonnelle. Et the weather is nice, c'est remis dans l'autre sens, c'est personnel. Donc il y a plein de choses comme ça. Comme ça, pardon. Comme chaud. Ça, c'est une traduction en ch'ti. On n'a pas encore la Bible en ch'ti. Hein. Donc dans une traduction à équivalence dynamique, donc celle où on privilégie le français, pour nous, l'inconvénient, c'est que le traducteur, il fait des choix sur le sens du texte. À un moment donné, il lui dit, OK, ce texte, il veut dire ça. Et donc je fais une phrase en français qui veut dire ça. Ça implique qu'il ait bien compris le sens de départ. Mais ça nous permet à nous de lire un français qui est beaucoup plus facile à lire, de mieux comprendre l'idée. Alors, il vaut mieux quoi? Est-ce qu'il vaut mieux un français qui se comprend bien, mais qui n'est pas tout à fait la même idée que le départ, ou un français qui est plus dur à comprendre, mais qui est l'idée de départ? Ça dépend des gens, en fait. Hein. C'est pas simple. Donc, le mot grec pistis veut dire foi, confiance, fidélité. Donc une traduction dynamique va traduire selon le contexte. En fait, en fonction des versets, vous n'allez pas utiliser la même traduction pour ce mot-là, même si le mot grec derrière, c'est le même. Et du coup, dans la liste de Galates 5, 22, comment on traduit? Parce que là, le contexte, il n'y en a pas vraiment. Vous pouvez mettre foi, confiance, fidélité, c'est le même mot de toute façon en grec. Alors l'équivalence formelle, donc la traduction littérale, elle impose moins un sens particulier. Du coup, vous essayez juste de traduire les mots et vous laissez la personne comprendre ce qu'elle veut bien comprendre. Par contre, elle laisse davantage paraître des répétitions. Non, ça c'est positif. Elle laisse davantage paraître des répétitions, des jeux de mots. Il y a des endroits dans la Bible où il y a des jeux de mots et que nous, en français, on ne comprend plus si c'est traduit d'une certaine manière. On y perd quelque part. Alors, ça nécessite une certaine connaissance du texte biblique et de son contexte. Donc, c'est pareil, il faut des traducteurs qui soient bien accrochés pour faire ça. Et par contre, ça peut créer des incompréhensions pour le lecteur. Il y a des phrases traduites en français, ça ne veut plus rien dire. Quand vous lisez Darby, typiquement, moi je pense à Darby parce que c'est une que je lis régulièrement, Darby, c'est dur à comprendre. Il y a des phrases, des fois, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire ? Vous rouvrez, vous lisez Second, qui pourtant n'est pas non plus du français courant, enfin les vieilles Second, bah, vous comprenez tout de suite, en fait. Et si vous lisez la nouvelle Bible Second qui est du français courant, il y a, ah ouais, mais je ne l'ai pas vu comme ça du tout, en fait. Et vous comprenez les choses différemment en fonction de la traduction. Alors ça, c'est un schéma que j'ai honteusement pompé sur Internet. Je ne vais pas le refaire moi-même. Hein. Qui trie les Bibles. Alors les traductions, les principales, hein, parce que je vous dis, si on les mettait toutes, on ferait le tour de la pièce ici. Et qui dit si elles sont plutôt à traduction littérale. Donc on retrouve la Darby, on retrouve la nouvelle Bible Second, la Jérusalem. La Seconde qui est finalement, vu leur classement, à peu près au milieu. Et puis après, vers des traductions qui sont de plus en plus dynamiques, donc qui privilégient le français. Là, on retrouve le français courant, parole de vie, semeur, parole vivante, ce genre de traduction-là. Et ça a été rangé aussi en fonction du niveau de langage. Si on attend un français vraiment châtié ou si on attend un français comme chaud, quoi. Voilà. Donc on retrouve c'est pas exactement le même classement, mais après forcément les traductions qui sont moins littérales sont souvent en français un peu plus fondamental, un peu plus basique et compréhensible. Donc on retrouve les Second 21, français courant, parole de vie, avec la Second 21 était plutôt littérale, mais elle se fait comprendre quand même du français de nos jours. Donc ils ont réussi un truc qui est plutôt pas mal dans celle-là. Après le milieu Second, elle est un peu au milieu des deux, hein, finalement. Et puis on retrouve la Darby, la Jérusalem qui était plus là-bas, mais la Darby, la Jérusalem, la Chouraki qui sont avec un niveau de français qui est compliqué à comprendre pour nous souvent. Alors Matthieu 5, 20, encore quelques exemples pour vous montrer que c'est pas si simple, hein, dit littéralement « Si de vous la justice ne dépasse pas plus que des scribes et des pharisiens », après il y a la suite du sermon sur la montagne, hein. Donc une traduction littérale formelle dit « Si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens ». Ça, c'est ce qu'on lit en Second en général. Hein. La Bible du semeur et celle en français fondamental rendent la notion d'obéissance à la loi plutôt que justice. C'est une manière de comprendre qui est plus simple quand on n'est pas habitué aux choses bibliques, justice, amour, tout ça. Les gens vont pas forcément, quand ils vont lire justice, ils vont pas comprendre comme nous quand ils sont pas chrétiens, en fait. Donc ça peut être une manière de les aider à comprendre. Et la Bible en français courant, elle parle de fidélité à la volonté de Dieu. Et entre justice et fidélité à la volonté de Dieu, c'est pas la même chose, c'est juste que d'un côté on a voulu traduire littéralement, de l'autre côté on a voulu traduire l'idée. Dans 2 Samuel 18, 3, littéralement, ça se traduirait « ils mettront un cœur vers nous ». Vous voyez, si on lisait tout en littéral, ce serait atroce. Hein. Et il vaut mieux traduire « l'attention se portera vers nous ». Et Darby il traduit par « prendre garde à ». Alors c'est pas tout à fait pareil. Mais voilà, le texte de départ, c'était ça. Le français courant, il dirait « il court vers le mal ». C'est une manière de faire. Alors, vous voyez que là, on passe de courir à avoir un cœur. Ce n'est pas tout à fait les mêmes organes. Et en hébreu, on trouve facilement « ses pieds courent vers le mal ». Ça, c'est aussi typique de l'hébreu, où il personnalise des membres du corps. « Ma main va faire ça » ou « mes pieds courent vers le mal ». On comprend bien que c'est toute la personne qui court. Hein. Mais voilà, c'est la manière de penser de l'hébreu qui se reflète plus vraiment en français derrière. Dans Proverbe 18, 21, littéralement, ça dit « mort et vie dans la main de la langue ». Vous avez tous la même image que moi, la main de la langue. J'ai pas fait de dessin, hein, la main de la langue, mais voilà, ça colle pas en français, c'est pas possible. On peut pas dire qu'il y a une langue qui a une main. Et donc, on traduit la langue à pouvoir de vie et de mort. C'est la même idée, c'est juste que là, en français, ça se tient beaucoup mieux. Et on peut penser à l'expression française « avoir le bras long ». On a quand même des fois encore dans notre langue l'idée d'avoir le bras long, c'est pas juste j'ai un bras qui pendouille par rapport à l'autre, c'est que j'ai un pouvoir supplémentaire ou j'ai des relations par rapport à d'autres. Alors dans le livre de la Genèse, à dix reprises on retrouve l'expression elé toledot qui veut dire tels sont les engendrements. Alors c'est normal parce qu'on y parle des descendances, donc d'Adam et Ève qui ont eu tel et tel fils, qui ont eu tel et tel fils, et ainsi de suite. Sauf qu'à un moment donné, on parle, alors là c'est déjà la traduction, j'aurais dû la noter. Voilà, un peu, à un moment donné, en Genèse 2, verset 4, il est question de la descendance du ciel et de la terre. Ah, c'est un peu compliqué parce qu'on peut dire qu'il y a eu un enfantement, enfin, même si nous, on peut le voir comme ça aussi. Enfin, c'est pas simple à traduire et donc dans certaines traductions, ils ont utilisé le mot histoire. Parce que l'engendrement de quelque chose, c'est l'histoire, c'est le début de l'histoire de cette personne ou de cette chose. Dans la version seconde, c'est voici les origines des cieux et de la terre. Non, on n'a pas dit voici l'engendrement des cieux et de la terre, parce que nous, l'engendrement, c'est lié à l'accouchement, c'est lié à la manière dont les hommes naissent, en fait. Donc pour les cieux et la terre, ça faisait bizarre. Donc ils l'ont traduit voici les origines des cieux et de la terre. À la fin, je vais finir à côté. Voilà, alors pour terminer, et on sera bien en fait, hein. Pour simplifier, on peut dire que la traduction qui convient le mieux est celle avec laquelle on a l'habitude de lire la Bible, même si des fois ça fait du bien de changer. J'ai lu pendant, j'ose pas dire, mais des dizaines d'années, dès ça va, c'est à partir de 2. J'ai lu la seconde depuis je sais pas quand en fait, j'ai toujours lu la seconde. Et donc il y a des gens qui me disent la seconde est compliquée à lire, tout ça, ben quand ça fait 20 ans en fait, on prend plus garde, hein. Mais je redécouvre des fois qu'en prenant une autre traduction, que ça soit la Darby ou la Seconde 21, on lit des passages. Oh, mais ouais! À force, en fait, on a intégré le texte et on n'est plus surpris des fois. Et du coup, là, le fait de prendre une autre traduction, ça nous fait beaucoup de bien parce qu'on ne voit plus les mots, on ne voit plus les phrases de la même manière, on ne voit plus les idées de la même manière. Donc, c'est bien d'avoir une traduction qu'on a l'habitude de lire parce que du coup, on est à l'aise pour la lire. Mais changer un coup de temps en temps, c'est pas mal. Alors, prendre la traduction qui correspond à notre bon niveau de langue. Il ne faut juste pas être hyper optimiste, se dire « moi, je parle super bien, je peux comprendre le français d'un haut niveau ». Si on n'est pas habitué, qu'on voit qu'on galère à la lire, bah, faut prendre un français courant et puis c'est tout. L'idée, c'est de comprendre ce que le Seigneur a voulu dire. Alors, il y a aussi lecture personnelle, lecture publique. Bon, ça, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Et prendre une Bible qui correspond à notre niveau de connaissance de la Bible. Vous avez vu, si c'est une traduction qui est littérale, eh ben, il faut connaître déjà le monde hébreu et comprendre qu'est-ce que ça veut dire réellement le texte. Alors que si on prend une traduction qui est plus dynamique, eh ben, la personne a fait le choix pour nous, elle nous l'explique quelque part. Et donc c'est plus simple au démarrage parce qu'on n'a pas tout le contexte. Voilà, je m'arrête là. On a fait le tour de ce qui était intéressant, je pense, sur les traductions de la Bible et tout ça. L'idée générale, c'est vraiment la Bible qu'on a maintenant. On peut la lire sans aucun problème, elle a été bien traduite, elle a été bien écrite au départ, elle a été bien transmise. À chaque étape, c'est vérifié, c'est approuvé par Dieu. Donc il faut la lire, et on peut, vu le travail qu'il y a derrière, si on reprend un peu hein, la création, la transmission, même la traduction, quand je dis c'est 10 ans pour sortir une traduction, il y a un boulot monstre derrière. Alors la laisser dans un coin et pas la lire, c'est quand même super dommage, parce que le travail est là, et en plus le message il y est, il est bon. Et c'est bien un des rares livres où on peut dire que c'est pas modifié, c'est pas un truc humain, c'est bien Dieu qui nous parle au travers de la Bible. Donc je vous encourage absolument à la lire et à faire confiance et après voilà, juste à adapter la version que vous voulez lire parce que voilà, il y a pas, vous dites pas je peux pas prendre celle-là, elle est pourrie. Dans les traductions qu'on a vues, elles sont bonnes, elles sont révisées plusieurs fois, donc il faut faire confiance. Ouais, je vais prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole, je te remercie de ce que tu l'as gardé depuis des siècles, Seigneur, et de ce que tu as fait attention à ce qu'on ait des bonnes versions de nos jours. Seigneur, il y a encore des gens qui font n'importe quoi, comme les témoins de Jéhovah, mais Seigneur, on a des traductions qui sont bonnes. Seigneur, merci de ce qu'elles gardent ton message, elles ne le dénaturent pas, et c'est ça le plus important. Seigneur, nous voulons chercher ta volonté, nous voulons chercher ce que tu veux pour nous, nous voulons chercher ce que tu veux nous dire, et... Seigneur, merci parce qu'il y a ton esprit qui nous dirige, qui nous convainc, qui nous travaille. Mais il y a ta parole écrite qui est fiable, Seigneur, et qui est pas sujette à nos sentiments, à nos évolutions, à nous. Merci, Seigneur, d'avoir pourvu à quelque chose d'écrit pour qu'on puisse se baser dessus sans aucun doute. Et je te prie, Seigneur, que chacun de nous puisse la lire, puisse faire l'effort de la lire et s'apercevoir que tu parles et, Seigneur, avoir envie de la lire après, ne plus le faire pour effort. Merci, Seigneur. Amen.